Troisième heure, on va finir ça avec Valérie Roberts, comme à tous les vendredis, chronique culturelle. Mais Valérie va également nous accompagner un peu plus tôt dans l'émission pour vous suggérer des activités pour la famille durant la relâche. Puis on va parler également avec une représentante des stations de ski pour voir un peu comment ils se sont préparés à la semaine de relâche. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre un gros volume? On va parler... Tu sais, moi, vous savez, je suis un amateur de hockey, puis on parle du trophée Vézina, le trophée Vézina, prestigieux, trophée Vézina. Mais dans le fond, l'homme derrière le trophée, Georges Vézina, gardien de but, on le connaît pas. Alors, Michael Alancette a écrit un livre sur Monsieur Vézina. Donc, il va être avec nous dans l'émission, avec Luc aussi. Et puis, ben Luc, tu es là.
Oui, je suis là.
Tu es là et tu vas commencer par nous transporter aux États-Unis?
Oui, aux États-Unis, parce que tu te souviens sûrement que une des promesses phares de la fin de campagne de Joe Biden, c'est qu'il allait réussir à faire 1 million de vaccins par jour pendant 100 jours. C'est 100 premiers jours comme président. Ben là, hier, il a dit « je suis là aujourd'hui ». Il s'est présenté devant les médias pour dire que nous sommes à mi-chemin avec 50 millions de doses en seulement 37 jours depuis qu'il est devenu président. Alors, c'est comme...
Mission accomplie.
Il y avait évidemment le vaccin Johnson & Johnson qui vient d'être approuvé aux États-Unis, qui va l'être là, probablement aujourd'hui.
Un vaccin à une dose.
À une dose, en effet. Ouais, ça, ouais. C'est sa grande force, ce vaccin.
Ouais. Il est sous étude ici, il faut le rappeler.
Et voilà. Alors, voilà, pour les États-Unis, enfin, les choses vont beaucoup mieux qu'elles allaient, n'est-ce pas?
Bien sûr.
On continue avec les États-Unis, mais on sort de la pandémie. Ce matin, un geste d'éclat qui vient rompre avec la façon de faire de Donald Trump et son administration dans la région du Moyen-Orient. Les services de renseignement américains ont rendu public, ce qui est très, très rare, une déclaration dans laquelle on dit que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, a validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018.
Celui qui avait été découpé à la scie, hein, c'est
voilà.
Ça?
C'était un Saoudien qui était proche d'une faction de la famille royale. Quand Ben Salman est arrivé comme prince héritier, mais qui était de facto celui qui dirigeait, l'autre s'est tourné contre lui, a été vivre en Occident et est devenu un commentateur dans le journal Washington Post. Et à un moment donné, Khashoggi s'en allait en Turquie, où il devait se marier avec une femme turque. Il devait passer à l'ambassade d'Arabie saoudite parce qu'on l'y avait invité pour lui donner des documents, disait-on. Il est entré dans le consulat, en fait, à Istanbul, et il n'en est jamais ressorti. On n'a jamais trouvé son corps. Mais on a trouvé des enregistrements ils l'ont étouffé avec un sac de plastique, puis ils ont pris une scie alors qu'il était encore vivant, puis ils l'ont dépecé.
Écœurant.
Alors,
ils auraient ils auraient dissous ses restes dans de l'acide,
ouais, voilà.
Comme dans le fameux film Nikita, et après ça, ils auraient jeté ça dans les égouts de la ville.
Voilà, c'est assez incroyable. Le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume. Alors, ce rapport-là, c'est intéressant. Il avait été rédigé, celui qui a été rendu public aujourd'hui, il avait été rédigé peu après l'assassinat du journaliste au consulat. Mais le président américain de l'époque, Donald Trump, n'avait pas voulu le publier.
Oui.
Joe Biden, lui, avant son élection, avait dit que ce crime-là faisait en sorte que l'Arabie saoudite devait dorénavant être traitée comme un État paria. Alors là, il est au pouvoir. On est en dehors des mots. Alors là, sa nouvelle approche, parce qu'il est en train de tout revoir la politique au Moyen-Orient, c'est « je ne parle plus à Mohamed Ben Salman, je ne parle qu'au roi Salman ». Il a eu une première conversation téléphonique avec lui hier. Tu sais, c'est comme un enchaînement bien calculé. Et pendant sa conversation téléphonique, il a parlé des droits de l'homme universels, de l'état de droit, puis il a remercié il a félicité le monarque pour la récente libération de plusieurs prisonniers politiques.
Mais ça, c'est le même monarque qui a ordonné l'assassinat de Khashoggi,
non, là. C'est le père.
Ah, c'est le père. Ah bon, OK.
C'est le père de Mohamed Ben
Salman. D'accord. Mais je pensais que le père n'avait pas toute sa tête, moi.
Il paraît qu'il n'a pas toute sa tête. On le sait pas. On le sait pas. Okay. Ça doit faire des belles conversations.
Non, non, mais c'est parce que la raison pour laquelle le prince, on l'appelle le prince héritier, Ben Salman, a pris autant de place, c'est que, en tout cas, je me prétends pas, j'ai pas un PhD en études saoudiennes, mais comme toi, Luc, je suis ça pas mal. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que le prince héritier était sur le point de prendre, dans les faits, avait de facto pris les rênes du pays parce que son père n'en avait plus les capacités intellectuelles.
C'est ce que j'ai compris moi aussi. Mais c'est clair que ce que veut dire Biden et ce que veulent dire les Américains, c'est on fait plus affaire avec Mohamed Ben Salman. C'est un personnage qui n'est pas digne qu'on fasse affaire avec lui. Et ça, c'est drôlement important parce dans les deux semaines qui ont suivi la sermentation de Joe Biden, les Américains ont annoncé qu'ils cessaient de soutenir l'effort militaire saoudien dans le Yémen. Et ils ont décrété qu'il fallait mettre fin à ce conflit-là parce que c'était la plus grande tragédie humanitaire du monde entier. Alors, tu vois, tous les morceaux tombent en place. En même temps, ils essaient... Ils ne considéreront pas l'administration Biden, l'Iran, comme un allié. Ce n'est pas ça du tout. Mais comme tu t'en souviens et que les gens s'en souviennent, Donald Trump, sur un coup de tête, sans trop savoir pourquoi, a décidé de mettre fin à l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. L'accord qui regroupait les grandes puissances du monde.
Sans trop mesurer les conséquences.
Mais c'était populaire avec la droite d'agir ainsi.
Ouais, ouais.
Alors là, il joue... On veut reprendre les négociations avec l'Iran, mais on a des conditions. Puis les conditions, c'est que l'Iran va arrêter, dans divers pays de la région, de faire des interventions militaires ou de susciter, si tu veux, des agressions. Alors là, on vient de le voir hier, en Syrie, il y a au moins 22 combattants qui ont été tués par des frappes américaines visant des milices pro-iraniennes. Alors, c'est déjà...
Ça, c'est important, là. T'as le président Biden, ça fait seulement quelques semaines qu'il est au pouvoir.
C'est sa première décision, là, de type militaire.
Ouais,
on attaque.
Il ordonne à ses chasseurs de frapper, donc, ses milices qui font le trouble au Liban, qui font le trouble à Gaza, qui veulent exporter le djihad.
Ouais, puis qui sont, dans le cas de ceux qui ont été attaqués, sur la frontière avec l'Irak. Et c'est comme un canal de passage de l'armement pour n'importe qui. Alors là, ils ont frappé dans le tas, comme on dit.
Non.
Il y a eu malheureusement 22 morts, mais il y avait eu des attaques récemment contre le personnel américain puis la coalition en Irak. Il y a eu des menaces toujours en cours contre ce personnel-là. Là, le président a dit, bon, mais tous ces morceaux-là tombent en place. Là. Oui. L'Arabie saoudite, attention, on marche plus avec vous autres dans votre guerre au Yémen. L'Iran, on est prêt à considérer de lever les sanctions qui rendent la vie terriblement difficile aux gens là-bas, mais à condition que vous arrêtiez de faire du trouble, et puis nous, on va regarder si on est prêt à retourner à table avec vous. En fait, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à le faire à condition.
Luc, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça mesuré.
Oui, c'est très intelligent.
C'est bien mesuré.
C'est stratégiquement intelligent.
Ah oui. Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, Luc, c'est que, pour en revenir à l'Arabie saoudite, c'est qu'à partir du moment où Biden dit « Moi, je fais plus affaire avec Ben Salman, là, le petit bum là, qui cautionne les actes de terreur.
Ouais. »
Pour rétablir, je te dirais, l'autorité morale des États-Unis dans le monde, il faut qu'il pose des gestes comme ça, Biden. Il faut qu'il montre qu'il est guidé par un certain nombre de valeurs non négociables.
Bien, la position qu'avait adoptée Trump, et disons pour un instant qu'il y avait une certaine logique dans leur position, l'administration de Trump avait décidé de prendre parti pour les sunnites, dont le pays présentement qui est le leader, c'est l'Arabie saoudite.
Oui.
Ce faisant, ça a donné des petits, ça a permis de faire des accords de paix avec Israël, à droite, à gauche. L'Arabie saoudite est devenue, sans avoir officiellement reconnu Israël, de facto son principal allié dans la région. Et c'était la prise de position de Trump. Là, on revient puis on dit, écoutez, je ne suis pas pour Téhéran puis je suis pas pour Riyad. Je suis contre les guerres interminables. Je suis contre ce type de comportement. Alors, c'est un jeu, extrêmement subtil d'une part et d'autre part, extrêmement dangereux, parce que cette région du monde est d'une complexité.
Ah oui.
Chaque geste que tu poses peut, comme un jeu de domino, en entraîner 4-5 autres. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, de mettre en place.
Tu peux pas dire que Biden ne pose pas des gestes de leadership. On peut, Luc, discuter. Est-ce que c'était les bons ou les.
Ouais,
mais on peut pas dire que le gars fait rien. Il prend des décisions.
Il est très activiste, Bernard. En fait, c'est le contraire. S'il y a une critique que moi, j'oserais lui faire si j'étais son conseiller, puis c'est loin d'être le cas, c'est fais-en pas trop. Il est en train de bouleverser tout un paquet d'affaires qui ont besoin de l'être. Et évidemment, il profite de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, parce qu'à ce moment-là, tu as beau avoir une opposition venant de ci, de ça, tu as 100 jours à peu près où les gens vont dire « donne-y une chance ».
Bien, jusqu'à date, il s'en tire pas trop mal.
Jusqu'à date, il s'en tire très bien.
Hein? Bon.
Mais à long terme, tu sais, souviens-toi, au début de son mandat, Barack Obama avait été faire un grand discours au Caire.
Ben oui.
Et c'était un discours là, comme on les aime, nous, les Occidentaux. Mais là-bas, dans le Moyen-Orient, ils ont écouté ça, puis ils ont dit « Ah boy, le rêveur qui vient d'arriver au pouvoir ». Et la politique étrangère d'Obama dans cette région du monde n'a pas été un désastre, mais n'a rien donné qui a fait évoluer les choses.
Non, puis on l'a vu en Syrie, il a très, très mal géré la Syrie, Obama.
J'ai trouvé très, très intéressant que le nouveau secrétaire d'État, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Tony Blinken, ait dit, dès son arrivée en poste, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui ont fait en sorte que Israël a maintenant des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, avec le Soudan, avec enfin toute une série de pays. Il a dit, nous allons maintenir ça en place parce que nous pensons que cela est positif. Donc, c'est tout ça.
Il rejette pas l'héritage. Ce qu'il y a de bon dans l'héritage de Trump, parce qu'il y en a dans sa politique moyen-orientale, il ne le rejette pas.
C'est une excellente chose, effectivement.
Oui, tout à fait. Bon, parlons un petit peu de Andrew Cuomo, il y a quelques semaines encore, c'était un héros, un grand héros. Il y en a qui le voyaient président des États-Unis, et là, il est en train de se faire déboulonner, là.
Ah, c'est absolument incroyable. Tu sais, c'est comme, il était devenu au plus fort de la pandémie, le prince de la politique, celui qui tous les jours était sur les lieux, donnait des conférences de presse, qui était très, très suivi. D'ailleurs, ça lui avait valu un prix Emmy, l'équivalent américain de nos Gémeaux, pour ses conférences de presse télévisées.
Rappelons les gouverneurs de l'État de New York, Andrew Cuomo.
L'État de New York, effectivement, c'est le fils d'un des kings du Parti démocrate, Mario Cuomo, qui a été élu 3 fois gouverneur de l'État de New York.
Ouais.
Et là, pendant qu'il devenait un super-héros, on constatait en parallèle que le pire bilan au pays et même presque au monde, c'était dans son état. Donc, il a bien joué ses relations publiques, mais dans la réalité, c'était pas tout à fait la même chose. Et on apprend maintenant qu'au début de la pandémie, et sans grande fanfare, il avait formellement ordonné aux résidences pour personnes âgées de son état d'admettre des patients infectés à la COVID. Des semaines et des milliers de morts plus tard, après que le décret eut fait l'objet d'un début d'attention médiatique, ils l'ont retiré du site web de l'État comme si ça n'avait jamais existé. Le château de cartes en question y a tenu pendant des mois. Puis là, tout à coup, tout s'effondre. D'abord avec le rapport choc de la procureure générale de l'État, qui est une démocrate comme lui, qui a signalé au début de 2021 que des données extraordinairement inexactes avait été fourni par l'administration Cuomo sur les décès dans les résidences pour personnes âgées. Et là, en même temps que les chiffres étaient trafiqués, il signait un autre décret peu remarqué à l'époque accordant une protection légale aux dirigeants d'hôpitaux et de résidences pour aînés contre des poursuites potentielles. Mais là, comme on sait, aux États-Unis, le système de santé est entre les mains du secteur privé.
Oui.
Les fameuses associations qui venaient de protéger avait contribué 2 millions de dollars dans sa campagne électorale. Alors là...
Fait que là, il y a le secret, il y a le mensonge, il y a la fausse représentation d'abord, il n'était pas bon comme il se présentait, il a menti, et puis il a profité financièrement, lui ou son parti ont profité financièrement des hôpitaux privés, groupes privés qui sont derrière ces...
Là où ça se détériore encore plus... Son ancienne attachée de presse, Karen Hinton, a publié un texte dans lequel elle dépeint sa relation professionnelle avec le gouverneur comme l'équivalent d'être prisonnière d'un mariage dans les années 50, un environnement de travail toxique où règne l'intimidation et, pour utiliser l'expression de Hinton, la culture du pénis.
Ben voyons donc.
Puis là, ce texte...
C'est quoi, ça veut dire quoi, ça, la culture du pénis?
Écoute ce cas-ci, puis tu vas voir que ça se tient... Ce texte qui a mis sur la table pour un autre publié plus tard la même journée par Lindsay Boylan, une haute placée du gouvernement de l'État de New York, dans lequel elle affirme avoir été victime, ainsi que de nombreuses autres femmes, craignant trop Cuomo pour témoigner d'agressions et harcèlement sexuel. Écoute celle-là, puis on va se terminer là-dessus. Ce dernier, on parle de M. Cuomo, s'y serait pris verbalement, demandant à Boylan, par exemple, de jouer avec lui au strip poker, ou encore l'invitant seul à son bureau lors d'une fête de Noël pour lui montrer, sourire en coin, une boîte de cigares qu'il aurait reçue de Bill Clinton.
Et ça nous rappelle Monica
Lewinsky. Alors, ça va pas bien, mais pas bien du tout, pour le gars qui, en février, était vu comme celui qui pourrait sauver les démocrates parce qu'on trouvait Biden trop faible. Voilà la vérité sur Andrew Cuomo, dont le frère Chris est une vedette de la télévision. Il y a un show en prime time à CNN. Pendant un temps, il recevait son frère. Et là, on se rend compte, ça avait pas de bon sens. Ça se fait pas, ça, comprends-tu? Il recevait son frère, puis c'était pas seulement de la complaisance, là. C'était de l'amour fraternel.
Oui, puis surtout qu'il fait pas preuve d'amour fraternel habituellement avec ses invités.
Ben non, c'est un bully d'habitude.
Ouais. Bon, ben écoute, on va voir ce qui... C'est assez triste, puis en même temps, ben c'est tout ce qui est allégué est vrai, c'est mérité.
Ben voilà, il a couru après.
Ben oui, exactement. Luc, tu bouges pas, parce qu'après la pause, on va parler de Georges Vézina.
Un nom dont on ne savait rien.
C'est ça. Je veux dire, il y a un trophée qui porte son nom, mais on ne savait pas qui était l'homme derrière le trophée. Et là, on va le découvrir avec Michael Lalancette, journaliste, dans un instant.